Chapitre 5. Le conseil des Falcon. 1. De toute sa vie, jamais Tian Jaffords n'avait eu aussi peur que tandis qu'il se tenait sur la scène du pavillon, balayant du regard les Falcon de Calabrian Sturges. Il avait beau savoir qu'il n'était sans doute pas plus de 500 réunis là, 600 tout au plus. Pour lui, il paraissait une multitude, et leur silence tendu le troublait. Il regarda sa femme, espérant y puiser un peu de réconfort, mais il n'en fut rien. Le visage de Zalea était sombre et émacié, elle avait les traits tirés, les traits d'une vieille et non pas ceux d'une femme encore en âge d'avoir des enfants. Le spectacle de cette fin d'après-midi ne fit rien pour l'aider à retrouver son calme. Au-dessus d'eux, le ciel était d'un bleu limpide et immaculé, mais il faisait bien trop sombre pour 5 heures du soir. Au sud-ouest s'amoncelait un gigantesque banc de nuages, derrière lequel le soleil s'était caché au moment même où Tian montait les marches de l'estrade. C'était le genre de temps que son grand-père appelait « sinistreux », un temps de sombre augure, grand merci. Les ténèbres constantes de tonnes foudres se zébraient parfois d'éclairs comme de gigantesques lampes à étincelles. « Si j'avais su qu'on en arriverait là, je n'aurais jamais mis tout ça en route, » se dit-il affolé. « Et cette fois-ci, il n'y aura pas de père Callahan pour me tirer d'affaire. » Pourtant, Callahan était présent près de Roland, de ses nouveaux amis, ceux avec leur dur calibre, les bras croisés sur sa chemise noire à col relevé et sa croix de l'homme Jésus par-dessus. Il s'exhorta à ne pas faire l'idiot, se répéta que Callahan l'aiderait cette fois encore et que les habitants du monde de l'extérieur l'aideraient eux aussi. Ils étaient là pour ça. Leur code d'honneur exigeait qu'ils portent secours, même au prix de leur propre vie et au prix de la quête qu'ils poursuivaient. Il se dit que tout ce qu'il avait à faire, c'était d'annoncer Roland et que Roland montrait sur scène. Une fois déjà, le pistolero s'était tenu sur cette scène. Il avait dansé la comala et gagné leur cœur à tous. Tian doutait-il qu'il les gagnerait de nouveau? En vérité, il n'en doutait pas. Ce qu'il craignait, au fond de lui, c'est que cette fois, il exécute une danse de mort au lieu d'une danse de vie, parce que c'était la mort, l'affaire de cet homme et de ses amis. La mort était leur pain et leur vin. C'était le sorbet qu'il prenait en fin de repas pour se rincer le palais. Lors de cette première réunion, était-ce vraiment il y a moins d'un mois? Tian s'était exprimé par colère et par désespoir, mais un mois suffisait largement pour évaluer le prix à payer. Et si tout ça n'était qu'une erreur? Et si les loups brûlaient la cala tout entière avec leur lumitrique, qu'ils emmenaient les enfants qu'ils voulaient et qu'ils extermineraient tous les autres, jeunes, vieux, les autres, avec leurs boules de mort sifflantes? Ils étaient tous là, debout, à attendre qu'ils prennent la parole, toute la cala réunie. Les Eisenhardt, les Oberholzer, les Javier et les Touk, même si ces derniers n'avaient plus de jumeaux en âge d'être emmenés par les loups, si fait non, quelle chance ils avaient, ces Touk. Telford au milieu des hommes, et sa femme grassouillette, mais au visage dur du côté des femmes. Les Strong, les Rossiter, les Slightman, les Hand, les Rosario et les Pozzell. Les Mani, une fois de plus, agglutinés ensemble comme une tache d'encre sombre, autour de Henschik, leur patriarche, secondé par le jeune Cantab, que les enfants aimaient tellement. Andy, l'autre chouchou des gosses, se tenait un peu à l'écart, ses poings métalliques sur les hanches et ses yeux bleus électriques jetant des éclairs dans la semi-pénombre. Les sœurs d'Olitsa collaient ensemble comme des moineaux sur une barrière et sa propre femme dans leur assemblée. Et les cow-boys, les ouvriers agricoles, les journaliers, et même le vieux Bernardo, le soulard de la ville. À la droite de Tian, ceux qui avaient porté la plume traînaient les pieds, mal à l'aise. Dans des circonstances normales, une paire de jumeaux était largement suffisante pour porter la plume de Bobanax. La plupart du temps, les gens savaient bien en avance ce qui se préparait, et ce n'était qu'une formalité. Mais cette fois, c'était l'idée de Margaret Eisenhardt. trois paires de jumeaux avaient porté la plume sacrée ensemble, de ferme en ranch, dans un bouca conduit par Cantab, qui restait assis à l'avant, silencieux contrairement à son habitude, menant une paire de mules brunes qui se débrouillaient très bien sans lui. Les plus vieux jumeaux, âgés de 23 ans, étaient les enfants Hagengood, nés l'année de la dernière rafle des loups, et marqués du sceau du péché pour la plupart des Falken, bien que ne rechignant pas à l'ouvrage, grand merci. Puis, c'était au tour des jumeaux Tavry, ces cartographes magnifiques qui habitaient la ville. Puis venaient Hedon et Hedda, les plus jeunes, bien que les aînés de Tian. Et c'est Hedda qui lui donna la force de continuer. Tian croisa son regard et vit que sa bonne fille, avec son visage sans charme, avait ressenti l'effroi de son père et qu'elle était elle-même au bord des larmes. Eddie et Jake n'étaient pas les seuls à entendre des voix dans leur tête. Tian entendait en ce moment même celle de son grand-père. Pas de Jammy tel qu'il était maintenant, ne tenant plus sur ses jambes et quasiment édenté, mais tel qu'il était 20 ans auparavant. Déjà vieux, mais capable de vous bottiner sur la route du fleuve si vous vous montriez insolent et que vous traînassiez dans la montée. Le Jammy Jaffords qui avait tenu tête au loup. Tian en avait parfois douté, mais il n'en doutait plus aujourd'hui. Parce que Roland le croyait. « Allez alors !» grogna la voix rageuse dans sa tête. « Qu'est-ce que c'est qu'il tient comme ça à trouler dans la farine, à faire le fainéant ? C'est pour grand-chose dire son nom et de se mettre de côté, pas vrai ? Mais t'as qu'à le laisser déblouiller du lest, poule bon ou poule ni ?» Pourtant, Tian prit encore un moment pour contempler la foule réunie, cernée par les flambeaux qui ce soir ne variaient pas, car ce n'était pas la fête, mais brûlait d'un orange constant. Parce qu'il voulait dire quelque chose, peut-être même qu'il avait besoin de dire quelque chose, ne serait-ce que pour reconnaître qu'il était en partie responsable de tout ça, pour le meilleur et pour le nid. Dans les ténèbres de l'Est, les éclairs explosaient en silence. Roland, debout les bras croisés, comme le père, vit le regard de Tian et hocha légèrement la tête. Même à la lueur chaleureuse des flambeaux, le regard bleu du pistolero était froid. Presque aussi froid que celui d'Andy. Pourtant, ce fut l'encouragement dont Tian avait besoin. Il prit la plume et la brandit devant lui. Même la respiration de la foule sembla s'arrêter. Quelque part dans les terres, un rouillot se mit à croasser comme pour retarder la nuit. « Il n'y a pas si longtemps, je me suis tenu devant vous là-bas, dans cette salle de conseil, pour vous dire ce que je crois, » dit Tian. « Que quand les loups viennent, ils ne nous prennent pas seulement nos enfants, mais notre cœur et notre âme. » Chaque fois que nous restons là à les regarder nous voler, l'entaille se fait plus profonde. Et si on prélève la sève d'un arbre, il finit par mourir. En faisant pareil à une ville, on la tue, elle aussi. » La voix de Rosalita Munoz, qui n'avait pas eu d'enfant, résonna dans la semi-pénombre avec une férocité limpide.
« Tu dis vrai ! Grand merci ! Écoutez-la, Falken ! Écoutez-le bien!
Écoutez-le, écoutez-le, écoutez-le bien! Monta de la foule.
Ce soir-là, le père s'est levé et nous a dit qu'il y avait des pistoleros venant du nord-ouest qui traversaient l'entre-forêt le long du chantier du rayon. Certains se sont moqués de lui. Pourtant, le père disait vrai!
Grand merci! Répondirent-ils, le père disait vrai!
« Loué soit Jésus! Loué soit Marie, Mère de Dieu !» s'écria une femme.
« Depuis ce jour, ils sont parmi nous, et tous ceux qui ont voulu leur parler ont pu le faire. Ils n'ont rien promis d'autre que de nous aider. Puis de repartir en laissant la désolation derrière eux si on est assez bête pour permettre ça !»
rugit Ebentouk. La foule fut secouée d'un sursaut d'effroi. Lorsqu'il fut apaisé, Wenhoverholzer prit la parole.
« La ferme ! Espèce de grande bouche !»
Touk se retourna pour regarder Overholzer, le gros fermier de la Cala, et son meilleur client, avec un air de surprise ébahi. Tian poursuivit.
« Leur Dean est Roland de Skane de Gilead !»
Il le savait déjà, mais le fait de mentionner ces noms de légende ne manquait pas de provoquer un murmure grave, presque un gémissement. Du monde de l'intérieur qui fut.
« Voulez-vous l'entendre ? Que dites-vous, Falcon ?»
La réponse monta en un seul cri.
« Écoutez-le, nous voulons l'écouter jusqu'au dernier mot. Écoutez-le bien, grand merci !»
S'ensuivit un roulement sourd que Tian n'identifia pas tout de suite. Puis il le reconnut et sourit. C'était le bruit des bottillonnes martelant non pas le plancher du pavillon, mais l'herbe de Dame Ritza. Tian tendit la main. Roland s'avança. Le martèlement se fit plus puissant. Les femmes s'étaient jointes aux hommes, faisant de leur mieux dans leurs chaussures de ville. Roland monta les marches. Tian lui donna la plume et quitta la scène, prenant Hedda par la main et faisant signe aux autres jumeaux de passer devant eux. Roland resta debout, la plume devant lui, en tenant la tige antique et laquée de sa main qui n'avait plus que 8 doigts. Le martèlement finit par s'apaiser. Les flambeaux grésillaient et crépitaient, illuminant les visages levés des Falcon, dévoilant leur peur et leur espérance, les révélant sans aucune équivoque. Le rouillot poussa un nouveau cri, puis se tut. Vers l'est, les éclairs tranchaient dans le noir. Le pistolero se tenait face à eux. 2. Pendant ce qui sembla une éternité, il ne fit que les regarder. Pour l'avoir vu maintes fois par le passé, il n'eut aucun mal à déchiffrer le message. Ces gens avaient faim. Ils auraient bien volontiers acheté à manger pour remplir leur ventre insatiable. Il se remémora le vendeur de tartes qui parcourait les rues de la basse ville à Gilead pendant les jours de canicule, et sa mère qui l'appelait Sep Sai, parce que ses tartes rendaient parfois les gens malades. Sep Sai signifiait « marchand de mort ».« Si fait, se dit-il. Mais mes amis et moi ne faisons pas payer. » À cette idée, son visage s'illumina d'un sourire. Il effaça des années entières de son visage taillé à la serpe, et un soupir de soulagement anxieux monta de la foule. Il commença comme il l'avait fait auparavant.
« Quelle heureuse rencontre que la nôtre, à la Cala ! Écoutez-moi, je vous prie. »
Silence.
« Vous vous êtes ouvert à nous ? Nous sommes ouverts à vous ? N'en est-il pas ainsi ?»«
Si fait, pistolero ! » cria Von Eisenhardt. « C'est ainsi !
Nous voyez-vous pour ce que nous sommes ? Et acceptez-vous ce que nous faisons ? »
Cette fois, c'est Enchik, des Mani, qui répondit.
« Si fait, Roland, par le livre et grand merci, tu es de la lignée d'Elde, le blanc vient mettre en déroute le noir !»
La foule poussa un long soupir. Quelque part près du fond, une femme se mit à sangloter.
« Falcon de la Cala ! Nous demandez-vous assistance et secours ?»
Eddie se raidit. Au cours des semaines qu'ils avaient passées à la Cala, cette question avait été posée à beaucoup d'entre eux, individuellement, mais ils trouvaient extrêmement risqué de la poser dans ces circonstances. Et s'ils disaient non ? Il fallut moins d'une seconde à Eddie pour comprendre qu'il s'était inquiété pour rien. En jaugeant ainsi son public, Roland se montrait aussi habile qu'à l'accoutumée. Certains répondirent bel et bien non. Un petit nombre de Haycocks, un groupe de Touk et une poignée de Telford menaient le camp des opposants. Mais l'immense majorité des Falken hurla un « Si fait, grand merci !» chaleureux et immédiat. Quelques autres, parmi lesquels Oberholzer était le plus important, ne se prononcèrent pas. Eddie considérait que dans la plupart des situations, c'était la décision la plus sage, la décision la plus politique, en tout cas. Mais ici, on n'était pas dans la plupart des situations. C'était le plus grand choix auquel seraient sans doute confrontés ces gens de toute leur vie. Si le cas-tête de 19 triomphait des loups, les habitants de cette ville se rappelleraient qui avait dit non et qui ne s'était pas prononcé. Il se demanda au passage si Wayne Dale Oberholzer serait toujours le gros fermier de cette région, dans un an. C'est alors que Roland ouvrit la palabre et Eddie concentra toute son attention sur lui. Son attention, pleine d'admiration. Avec l'enfance qu'il avait eue, Eddie était habitué à entendre des flopées de mensonges. Il en avait raconté beaucoup lui-même, dont certains excellents. Mais lorsque Roland eut atteint le milieu de son laïus, Eddie se rendit compte que jamais auparavant il ne s'était trouvé en présence d'un tel génie du mensonge. Jamais jusqu'à ce soir à Calabrain Sturgis. Et il gobait la moindre de ses paroles. 3.
La dernière fois que je me suis trouvé en face de vous sur cette scène, commença Roland, j'ai dansé la Comala. Ce soir, George Telford l'interrompit.
Il était trop mielleux au goût d'Eddie et beaucoup trop rusé, mais il ne put nier que l'homme avait du courage de lever ainsi la voix contre l'opinion générale.
« Si fait, on s'en souvient, vous l'avez bien dansé. Comment dansez-vous la mortata, Roland? C'est ce que je me demande, je vous prie. »
Un murmure de désapprobation traversa la foule.
« Peu importe comment je la danse, dit Roland, pas du tout désarçonné, car je ne danserai plus à la Cala. Nous avons du travail qui nous attend dans cette ville, moi et les miens. » Vous nous avez accueillis et nous vous disons grand merci. Vous nous avez sollicités. Vous avez demandé assistance et secours. À présent, je vous demande donc de m'écouter. Très attentivement. Dans moins d'une semaine, arriveront les loups.
Il eut un soupir. Le temps était peut-être devenu glissant, mais même ces Falken, dans toute leur simplicité, pouvaient toujours mesurer ce que 5 jours représentaient.
Le soir qui précédera leur arrivée, je veux que soient réunis ici tous les enfants jumeaux de moins de 17 ans,
dit Roland en pointant le doigt vers la gauche où les sœurs Dolitz avaient monté une tente. Il y avait bon nombre d'enfants présents ce soir, mais aucun de la centaine qui se trouvait en danger. Les plus grands avaient pour responsabilité de s'occuper des plus petits pendant toute la durée du conseil, et l'une ou l'autre des sœurs allait fréquemment vérifier que tout se passait bien.
« On ne pourra pas tous les faire tenir dans cette tente, Roland, » dit Ben Slightman.
Roland sourit.
« Mais dans une plus grande, si, Ben. Et je crois savoir que les sœurs peuvent en trouver une. »
« Si fait !» Et nous leur ferons un repas qu'ils n'oublieront pas de sitôt,
lança courageusement Margaret Eisenhart. Des rires bon enfant accueillirent sa proposition, puis se turent. Dans la salle, beaucoup se disaient sans doute que, si les loups finissaient par l'emporter, la moitié des enfants qui auraient passé la veille des loups sur la pelouse ne se rappelleraient pas leur propre nom une semaine ou deux plus tard, encore moins ce qu'ils avaient mangé.
« Je les ferai coucher sur place afin de pouvoir les emmener aux premières lueurs de l'aube. D'après ce qu'on m'a dit, il n'y a aucun moyen de savoir si les loups viendront tôt, tard ou au milieu de la journée. Nous aurions vraiment l'air idiots s'ils devaient débarquer au point du jour et les trouver tous là à découvert. Qu'est-ce qui les empêche de venir un jour en avance ?»
demanda Ibn Touk d'un ton brutal.
« Ou à minuit, le soir que vous appelez la veille des loups. »
Ils ne peuvent pas, dit simplement Roland. Et s'ils s'appuyaient sur le témoignage de Jamie Jeffords, ils étaient pratiquement certains de pouvoir compter là-dessus. L'histoire du vieux bonhomme lui donnait des raisons de laisser Andy et Ben Slightman en liberté pendant les 5 jours à venir.
« Ils viennent de loin et ne font pas tout le voyage à cheval. Leur horaire est fixé longtemps à l'avance. »« Est-ce que vous en savez ?» demanda Louis Haycox.
« Il vaut sans doute mieux que je ne dise rien, » répondit Roland. « Peut-être les loups ont-ils de longues oreilles ?»
Un silence songeur accueillit cette hypothèse.
« Le même soir, celui de la veille des loups, je ferai venir une douzaine de boucas, les plus gros de la cala, pour emmener les enfants au nord de la ville. C'est moi qui désignerai les conducteurs. Il faudra aussi du monde pour s'occuper des enfants et rester avec eux le moment venu. Et pas la peine de me demander où nous les emmènerons. Il vaut mieux ne pas discuter de ça maintenant. »
Bien sûr, la plupart d'entre eux pensaient déjà savoir très bien où les enfants seraient emmenés, à la vieille Gloria. La rumeur se répandait avec une facilité déconcertante, comme Roland le savait. Ben Slightman croyait que ce serait un peu plus loin, à la Plume Rouge 2, au sud de la Gloria. Mais ce n'était pas plus mal.
« Ne l'écoutez pas, Falcon, je vous prie !» brailla George Telford. « Et si vous l'écoutez pour votre âme et la vie de cette ville, ne le faites pas! Tout ce qu'il raconte n'est que folie! Nous avons déjà essayé de cacher nos enfants par le passé, et ça ne marche pas! Et même si ça marchait, il viendrait quand même et il brûlerait la ville, rien que par vengeance, il brûlerait tout! Silence! Espèce de lâche !»
C'était Enchik, la voix dure comme un claquement de fouet. Telford aurait bien continué, mais son fils aîné lui prit le bras et l'exhorta à se taire. C'était aussi bien. Le martèlement des bottillons avait repris. Telford jeta à Eisenhart un regard incrédule, sa pensée aussi limpide que s'il la lui avait criée au visage.
« Ne me dis pas que tu fais partie de ce plan de fou, c'est pas possible !»
Le gros fermier secoua la tête.
Pas la peine de me regarder comme ça, George. Je suis aux côtés de ma femme, et elle est du côté d'Elde.
Les applaudissements accueillirent sa réponse. Roland attendit le retour au silence.
Telford dit vrai. Les loups sauront probablement où les enfants auront été cloîtrés. Et quand ils viendront, mon quatre-têtes les attendra de pied ferme. Ce ne sera pas la première fois que nous serons confrontés à des créatures de leur espèce. »
Il y eut des grondements d'approbation. Le martèlement redoubla. Des applaudissements prirent le relais, en rythme. Telford et Ibn Tuk regardaient autour d'eux, les yeux écarquillés, comme s'ils découvraient qu'ils s'étaient réveillés dans un asile de fous. Quand le pavillon fut de nouveau silencieux, Roland reprit la parole.
Certaines de la ville ont accepté de se joindre à nous, des Folka avec de bonnes armes. Mais vous n'avez pas à en savoir plus pour l'instant. Là non plus.
Mais bien évidemment, la communication féminine informa ceux qui ne savaient pas encore de l'implication des sœurs d'Olitsa. Eddie s'émerveilla une nouvelle fois de la maestria avec laquelle Roland l'y menait. Sa technique n'avait rien de causé. Il adressa un regard à Susanna qui roula des yeux ronds et lui décocha un sourire. Mais la main qu'elle posa sur son bras était froide. Elle voulait que ça se termine. Eddie savait exactement ce qu'elle ressentait. Telford fit une toute dernière tentative.
« Écoutez-moi tous! Tout ça a déjà été essayé avant !»
C'est Jack Chambers qui répondit.
« Mais ça n'a pas été essayé par des pistoleros! Ça a été Telford !»
L'intervention de Jack suscita de grands cris d'approbation. Il y eut des martèlements de pieds, des applaudissements. Roland dut finalement lever les mains pour apaiser le chahut.
« Les loups iront en majorité là où ils croient que seront les enfants, et c'est là que nous les piégerons. Des groupes moins importants iront peut-être attaquer les fermes ou les ranchs. Certains pénétreront peut-être en ville. Et si fait, il y aura sans doute des bâtiments brûlés. »
Ils écoutèrent en silence et avec respect, hochant la tête, et arrivèrent avant lui à l'étape suivante, comme ils l'avaient espéré.
« On peut remplacer un bâtiment brûlé, pas un enfant crâné. »«
Si fait !»
dit Rosalite.
« Ni un cœur crâné !»
Il y eut des murmures, surtout de la part des femmes. À Calabrian Sturgis, comme à peu près partout ailleurs, les hommes en état de sobriété n'aimaient pas parler de ce qu'ils avaient dans le cœur.
« Maintenant, écoutez-moi, car voici ce que je peux encore vous dire. » Nous savons exactement ce que sont les loups. Jamie Jaffers nous a confirmé ce que nous soupçonnions déjà. »
Des murmures de surprise s'élevèrent de l'audience. Les têtes se tournèrent. Debout à côté de son petit-fils, Jamie réussit à redresser son dos courbé et à sortir son torse affaissé. Eddie espérait juste que ce vieux busard saurait rester calme pour ce qui suivrait. S'il s'embrouillait et se mettait à contredire le récit de Roland, la tâche deviendrait soudain beaucoup plus difficile pour eux. Au minimum, il leur faudrait déjà intercepter Andy et Ben Slightman au plus vite. Et si Finley Otego, cette voix à qui Slightman faisait son rapport au Dogan, n'avait pas de nouvelles de ces deux-là avant le jour des loups, il y aurait des soupçons. Eddie sentit bouger la main posée sur son bras. Susanna venait de croiser les doigts.